votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus.
Bonjour, il est midi sur Radio Campus, c'est aujourd'hui, on est le 19 juillet 2025 et vous vous préparez à écouter sur les 106 MHz de Radio Campus mais aussi sur campuslille.com et même sur DAB+, Angle d'attaque, une émission proposée par les trois comités locaux de la métropole lilloise. Attaque, A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. ATTAC est une association d'éducation populaire et altermondialiste. Au micro aujourd'hui, pour vous servir, Christian, Morgane, Ludovic et moi-même aux manettes. Et du coup, je vais passer le micro à Morgane qui va introduire cette émission.
Oui, alors le thème de l'émission, on a intitulé « Les assistés de Macron », en fait. Donc, ce qu'on peut entendre dans les médias dominants sur les fraudes aux aides sociales, etc., mais bien sur toutes les aides aux ultra-riches, leur efficacité, ou plutôt leur inefficacité, et des différentes façons de le décliner. Donc, on va commencer notre émission sur la taxe Zucman, qui a été refusée par les parlements récemment, en fait, qui était une. Donc, de quoi s'agit-il? On verra un peu dans le détail, mais on peut donner à grand trait qu'il s'agit d'une mesure pour commencer ou recommencer à mettre à contribution les plus riches pour l'action de l'État. Une façon de donner un peu d'air frais aux recettes de l'État. Donc on va commencer avec Christian déjà. Qu'est-ce que c'est que cette taxe Zucman en fait? Qu'est-ce qui a motivé la mise au point de cette taxe? La montée des inégalités, le budget de l'État difficile à tenir?
Oui, tu as raison. Morgane, seule chose, c'est le Sénat qui a refusé le.
Oui.
C'est pas le Parlement. Hein. C'est le Sénat qui a refusé la taxe Zucman. Alors la taxe Zucman, effectivement, nous on a fait ça sur le ton de la dérision, comme tu l'as dit. Hein, c'est pour aider les riches à payer des impôts, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu le principe. Alors. Un mot quand même sur Zucman lui-même, quand même, c'est un jeune quarantenaire qui a fait 10 ans d'études à Berkeley sous la direction d'un certain Thomas Piketty, qui est professeur titulaire à l'école d'économie de Paris et puis qui est aussi, c'est pas complètement neutre par rapport au sujet qui nous préoccupe, le directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité. Donc voilà pour. Voilà pour Zucman. Alors, la taxe, c'est intéressant de savoir qu'actuellement, non seulement à Berkeley, mais partout dans le monde, beaucoup de chercheurs se penchent sur cette inégalité invraisemblable dans notre société capitaliste, et même pas capitaliste d'ailleurs. D'inégalité flagrante et croissante des revenus. Et ce travail de chercheur intéresse beaucoup les gens qui sont précisément aux manettes dans la fiscalité à Bercy et ailleurs, et qui sont quand même attentifs à ce qui se dit. Un élément important pour mesurer ces inégalités, c'est l'Institut des politiques publiques, qui est une institution nationale en France, bien sûr, qui a pu établir que si les Français acquittaient environ 50% de leurs revenus en impôts, cotisations et taxes diverses, pour les plus riches, ce 50% tombait à 27%, donc quasi la moitié du taux pour l'ensemble des Français. Ils sont dans l'ensemble des Français, en l'occurrence, hein, je rappelle, les plus riches. Donc, cette inégalité, il faut quand même le préciser dès le début, dès le départ, c'est non constitutionnel, c'est contraire à la Constitution de la République française, article 13, que je me permets de vous lire si je le retrouve. Évidemment, je ne vais pas le trouver. L'article 13, voilà. L'article 13, pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Et ça, ça fait partie de l'ensemble de la Constitution française, c'est un des quatre textes constitutionnels, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Bien, donc après ça, on a découvert dans la foulée que, à partir d'une fortune, d'un patrimoine estimé à 100 millions d'euros, l'impôt devient dégressif. Alors, quand même, comment se fait-il que ce soit dégressif ? Eh bien, il y a deux éléments de la régressivité. C'est des revenus qui sont fondés sur des biens mobiliers, la fortune des gens qui sont très très riches, on va parler des ultra-riches, 1200 milliards d'euros en 2023, fondés sur des biens mobiliers. Et on les taxe en généralement sur leurs revenus des biens mobiliers. Les biens mobiliers, ce sont les actions, les obligations, les produits dérivés, etc., qui produisent, surtout les actions en l'occurrence, qui produisent des dividendes et des revenus, mais sur lesquels on peut assez facilement tricher. Il y a donc les moyens de la régressivité. Quand je dis tricher, je rappelle que c'est totalement légal de déduire des revenus des actions, un certain nombre des dividendes, donc un certain montant. Et donc, on a dans les outils qui permettent la régressivité, et on va voir dans la troisième partie comment, le prélèvement forfaitaire unique, donc ce qu'on appelle la flat tax, qui est un taux global de 30% sur les impôts, sur les revenus, qui inclut au titre de l'impôt sur les revenus 17,2%, qui inclut 12,2% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Les défenseurs de la flat tax ont dit que ça a permis d'augmenter sensiblement les dividendes et donc ça a permis de financer les entreprises par le retour des dividendes dans les entreprises. Mon œil. Donc, il s'agit surtout d'un taux forfaitaire, car ce taux ne prend pas en compte la tranche d'imposition et le revenu fiscal de référence. Donc, c'est tout gagné. Autre élément pour permettre la régressivité, donc permettre de payer moins d'impôts, c'est les holdings familiales, c'est-à-dire une holding familiale qui regroupe diverses sociétés sous le nom d'une même famille, qui détient 50% du capital social des filiales, et ce qui lui permet d'exercer un contrôle sur les filiales. Alors, ça a l'air bien complexe, mais ça ne l'est pas, franchement. On met toutes les fortunes de la famille, on les met au pot, dans cette holding familiale, et ça permet, tenez-vous bien, d'éviter de verser les dividendes qui sont stockés au titre de la société, au titre de l'holding. Évidemment, l'holding paie quand même la taxe sur les bénéfices, l'impôt sur les bénéfices. Revenons maintenant au peut-être essentiel, l'assiette de la taxe Zucman. Le constat de Zucman, c'est de dire, je l'ai déjà dit, il semble que tout ce qui est revenu et dividende, je viens de le dire avec la flat tax et la holding familiale, on peut éviter ça quand on est ultra riche, on peut éviter ça par différents moyens, il y en a au moins deux que je viens de citer. Il y a le moyen malhonnête aussi, il y a le fameux cum-cum qui permet de planquer dans une banque, au moment où arrivent les dividendes, de planquer dans une banque les actions. Quand les dividendes sont versés, on récupère les actions et on partage le non distribué entre la banque et le propriétaire d'actions. Ça, c'est la taxe cum-cum que vous avez peut-être entendu parler. Donc, Zucman va s'intéresser à ce qui n'est pas revenu, ce qui est véritablement le patrimoine. Et le patrimoine, c'est ce que possède une famille, évidemment, une fortune qui est essentiellement financière pour les ultra-riches. Ces titres de participation dans les différentes entreprises, dont ils sont évidemment très souvent les quasi-uniques bénéficiaires quelquefois. Donc, on est loin il s'agit de ce qu'on appelle des biens professionnels, puisqu'il y a aussi des biens professionnels. Une entreprise, quand vous êtes propriétaire d'une entreprise, c'est un bien professionnel, mais le boulanger qui est propriétaire de sa camionnette, c'est pas vraiment le bien professionnel qui est visé. Donc, le montant de la taxe. Donc, est-ce que je me fais bien comprendre, ça va là ou je
suis... Oui, c'était la question qui allait suivre. Du coup, quelles sont les propositions vraiment qui découlent de la taxe? Comment Zucman envisageait vraiment de mettre en place cette taxe et quels effets pouvaient être attendus?
Oui, alors un mot quand même, par exemple, sur les choses qui peuvent éviter. Il y a eu, dans les années 60, un pacte Dutreil. Et le pacte Dutreil, c'était pour permettre de faciliter ou de réduire sensiblement les droits de mutation lorsqu'un papa laissait à son enfant l'entreprise. Et ce pacte Dutreil était une exonération de 75% du montant du droit de mutation. Exonération. Bon, c'est un impôt plancher différentiel dont le taux est fixé à 2%. Alors, pourquoi 2%? Parce que c'est justement à partir de ce taux, c'est le calcul qui a été fait par les chercheurs et les fiscalistes, c'est à partir de ce taux que s'efface la régressivité du système fiscal. Alors, pourquoi différentiel? Parce que c'est un impôt qui ne vient pas s'ajouter aux autres impôts. Si, calcul fait, les 2% sont atteints, il n'y a plus rien à payer. Et s'ils ne sont pas atteints, on va faire en sorte que ce soit jusqu'à hauteur de 2%. Qui devra s'acquitter de cette taxe? Eh bien, les ultra-riches, quoi. On a identifié à peu près... entre 4 000 et le chiffre le plus bas, c'est 1 800 foyers fiscaux qui ont en fortune plus de 100 millions d'euros en patrimoine. Mmh. J'insiste sur le patrimoine. C'est des gens qui ont déjà payé des impôts. Hein. S'ils sont soumis, par exemple, à l'impôt l'IFI, là, le dernier impôt, l'impôt sur la fortune immobilière instauré par Macron, ça n'empêche pas qu'ils seront quand même taxés si ça n'atteint pas les 2%. D'accord. C'est ça que je veux dire. Hein. Voyons. Le chiffre le plus bas, à ma connaissance, c'est 1 800 foyers fiscaux, parmi lesquels... Donc, il y a 75 milliardaires, et ceux-là sont dans le 0,002% des vraiment très, très riches Français. Alors, quel est le rendement de la taxe Zucman? Eh bien, le rendement de la taxe Zucman, c'est... Alors là, c'est très variable. J'ai refait des calculs, moi... J'ai pas trouvé les mêmes chiffres que Zucman, donc je devrais faire un tour à Berkeley, sans doute. Mais c'était annoncé autour de 20%, donc autour de 20 milliards, pardon. Moi, je trouve 30, c'est préférable, mais voilà. Et puis, j'y reviens tout de suite, les copines d'écolo qui ont présenté à l'Assemblée nationale comment elle s'appelle, Eve Sass et...
Eva Sass, pardon.
Et Clémentine Autain estiment entre 15 et 25 milliards le montant de... le rendement possible de la taxe en question.
Déjà 15 milliards, ça donne un petit coup de frais quand même sur le budget, quoi.
Oui, c'est ça, hein, c'est exactement... d'ailleurs, Zucman le dit lui-même, hein, dit, moi je suis un petit peu en dessous de ce que je voudrais que ce soit. Alors, il dit aussi, il ne s'emmerde pas. Hein. C'est quand même lui qui a osé dire, mais évidemment, il y a des chiffres à l'appui, il y a des démonstrations à l'appui. Il dit que la France est un paradis fiscal pour les milliardaires. Voilà. Donc, où j'en étais le revenu entre 15 et 25 milliards, oui, pour dire ce que tu dis, effectivement, il me semblait que Macron, à l'époque, Bayrou cherchait 40 milliards, on avait à peu près la moitié, quoi, ça fait déjà, on peut déjà se contenter de ça. Mais c'est pas suffisant, manifestement. Ça n'a pas convaincu, en tout cas, notre président, de notre Premier ministre. Donc, en revanche, je vais passer à la deuxième partie, c'est que les deux députés ont présenté, donc le 5 janvier 2025, ont présenté une sorte de taxe Zuckman.
Attention.
Décidément, c'est pas la première fois que je fais. Bon, Zuckman, donc. Alors, il faut savoir quand même qu'avant de dire ça, sur Anne-Laure Delatte, qui a travaillé au programme du Nouveau Front Populaire, le Nouveau Front Populaire avait déjà intégré quelque chose qui ressemblait très fortement à la taxe Zuckman. Bon, je reviens à Eva Sas et à Clémentine Autain. Donc, le 16 janvier, on déposait cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. Donc, une proposition de loi, mesdames, messieurs les députés, je vais reprendre ce qu'elles ont écrit, effectivement. Nous proposons de créer un impôt plancher sur la fortune, qui est au départ IPF, pour les 0,01% des contribuables les plus riches possédant plus de 100 millions d'euros, afin de s'assurer qu'ils payent au moins 2% de leur fortune en impôts. Donc on est bien strictement sur ce que propose Gabriel Zuckman. Cette contribution pourrait générer entre 15 et 25 milliards de recettes supplémentaires dans le budget de l'État. Voilà. Il s'agit effectivement de permettre aux plus modestes de vivre dignement, de réparer nos services publics en grave souffrance et pour investir dans la transition écologique, la lutte contre le dérèglement climatique et l'adaptation à ses effets irréversibles. Nous avons besoin de financement, disent-elles toutes les deux, et le Parlement a adopté, pour les présents là, par 116 voix contre 39, le Parlement, je dis bien l'Assemblée nationale, a adopté cette proposition de loi pour 116 contre 39. Concernant le Sénat, c'était au mois de juin. Devant les militants d'Oxfam de 350.org et Attac, qui manifestaient ce jour-là, il s'agissait d'étudier cette taxe Zuckman et qui a été rejetée en première lecture par le Sénat, 188 voix contre 129. Je me souviens qu'un socialiste espérait avoir des voix du centre, mais non, le centre a vraiment fait bloc contre la taxe Zuckman. Alors, les arguments, ce serait peut-être intéressant de dire un mot, j'ai encore le temps là.
J'allais dire, l'idée de taxer les riches, en fait, c'est l'argument qui revient régulièrement, c'est est-ce qu'on risque pas de les faire fuir comme un troupeau de gazelles effarouchées et comment on peut attraper ces capitaux volatiles et craintifs ?
Oui, justement, c'est bien ce que tu dis. Ils sont pas, quand on s'attaque au patrimoine, c'est pas si volatif que ça, quoi. Non, volatile que ça. Mmh. Et donc, on peut les arrêter. Alors, l'idée que nous n'allons pas encore une fois imposer par un nouvel impôt, voilà les arguments, par un nouvel impôt, les pauvres milliardaires. Ils n'ont pas dit pauvres, je crois. Ils n'ont pas dit milliardaires non plus. Ce n'est pas un nouvel impôt, c'est clairement une taxe additionnelle. Ils payent des impôts. On estime que ce n'est pas à la hauteur par rapport à l'équité, à l'égalité dans la nation. Mm-hmm. Donc, vous ne payez que 2%. Ce n'est pas monstrueux, mais ce n'est pas une taxe additionnelle, en tout cas. Alors, il s'agit d'un dispositif anticonstitutionnel puisqu'il est sans plafonnement. C'est un argument qui n'est pas inintéressant, mais je viens de lire le texte du 21 août 1789. Il s'agit d'avoir l'égalité devant l'impôt. Et la proposition de Gabriel Zuckman, c'est de proposer l'égalité devant l'impôt, qui est encore assez inégale quand même, il faut le reconnaître. Mm-hmm. Donc l'argument que c'est anticonstitutionnel, ils peuvent aller se faire voir. Alors, c'est un impôt confiscatoire qui promet 5 fois plus de rendement que l'impôt sur la fortune concentré sur 1 800 personnes. Là où l'ISF frappait 350 000 personnes, je rappelle. L'ISF, c'est l'impôt sur l'égalité sur la fortune. Bon, ben confiscatoire, alors, ok. Les 500 plus grandes fortunes de France, 200 milliards en 2010 de fortune, 1 200 milliards en 2025. Qui confisque quoi à qui ? Peut-être réfléchir un peu à cette question-là. De plus, là, effectivement, Zucman est sanglant. Il dit, sur la même période, la totalité des Français, le patrimoine de la totalité des Français s'est accru de 2,4%, la fortune des plus riches, entre 7 et 8%. Il n'y a pas photo. Alors, c'est un impôt qui est favorable à l'exil fiscal. Ça, généralement.
On l'entend souvent.
ça marche pas vraiment, déjà. Et puis, en plus, ces vicelards de députés ont prévu que l'impôt plancher continue pendant 5 ans, où que soit la personne, où qu'elle habite. Alors, c'est pas tout à fait la méthode américaine qui consiste... Vous êtes américain, vous êtes né sur le sol américain, vous paierez des impôts au montant de votre fortune ou que vous viviez dans le monde. Et on vous poursuivra si ce n'est pas possible, si on ne peut pas le faire. Ils ont d'ailleurs fait fléchir la Suisse sur le secret bancaire grâce à ça. Alors, ça ne marche pas. Hein. Les gens ne se sauvent pas si facilement de la France. Alors, le dernier qui t'a fait rire, je me souviens, Morgane, dire qu'on va résoudre les problèmes des pauvres en taxant les plus riches, c'est monter les Français les uns contre les autres.
Oui.
Oui, ben, ça fait rire, mais je sais pas, ils aiment bien, hein, c'est certainement ça. Alors, il y a l'argument de la LFI aussi, qui était pas mal. La LFI propose de rendre la mesure plus ambitieuse en abaissant le taux d'effectivité de 100 millions d'euros à 50 millions d'euros. Et l'idée vient de quelqu'un de l'Observatoire européen de la fiscalité. Oui, mais ça ne joue plus, parce que c'est à 100 millions que la dégressivité se fait. Donc, ça ne marchait pas. Et donc, très justement, ça a été jugé irrecevable. Est-ce que je conclue, là ? Je suis dans les temps ou...
On est à la deuxième partie, c'est ça ?
On peut attaquer la deuxième partie.
Je dis un mot quand même.
Oui,
sur
la foule.
Parce que je voudrais... Oui, je pense que la taxe, j'avais noté sur le plan, on est dans la bonne voie, quoi. Hein. Mmh. La taxe Zucman est une ouverture et une brèche. On met clairement sur la table des recherches universitaires avec l'appui des gens qui sont dans les domaines, dans la fiscalité. Et on ouvre une véritable brèche là-dedans, et je pense qu'on va s'enfoncer là-dedans, on va continuer, à attaque en particulier, de creuser ce sillon, cette brèche en tout cas, pour montrer effectivement qu'il y a des trop riches en France par rapport à la moyenne de fortune des Français.
Oui, il existe une pétition contre la loi Dupont, est-ce qu'il existe une pétition
Ah oui, mais ça, on va parler à la fin de ça. On en parlera. Mais ce que dit Thomas Piketty lui-même, dont le prof, donc, c'est que ce qui frappe les opposants, parmi les opposants à l'impôt sur les ultra-riches, ce qui saute aux yeux, c'est leur absence totale de perspective historique. Quoi. C'est-à-dire, rien de ce que le dérèglement climatique, le réchauffement de la planète est pris en compte. Et effectivement, on va voir avec Duplomb tout à l'heure, les prises en compte dans leur réflexion.
Oui, effectivement, le rapport du GIEC, le dernier qui était sorti, dans le dernier volet consacré aux solutions, quand même la note d'optimisme de dire, bon, effectivement, ce qui va nous arriver sur la tronche avec un monde à plus 2 degrés, plus 3 degrés, plus 4 degrés, c'est... clairement apocalyptique, clairement un vrai choc civilisationnel, même possibilité de rendre la planète inhabitable pour l'être humain. Mais on a les moyens, l'humanité a les moyens de s'adapter. Il manque juste la volonté politique.
Voilà. Effectivement, donc, c'est l'élément essentiel. Et quand je parle de brèche, je rappelle qu'il y a plus qu'une brèche, puisque c'est Lula lui-même qui était l'hôte du dernier G20 et qui a demandé, en 2024, je crois, et qui a demandé à Zucman de présenter ses propositions pour réduire l'inégalité des fortunes dans le monde entier. Voilà, je termine là-dessus.
Donc, du coup, on peut passer à la deuxième partie maintenant, donc sur la commission d'enquête sénatoriale relative aux aides d'État ciblant les entreprises, qui ont, semble-t-il, explosé avec Emmanuel Macron. Mais il ne faut pas oublier, déjà, sous le quinquennat Hollande qui repasse un peu dans les médias pour critiquer Macron, dire qu'il va trop loin, mais bon, c'est un petit peu son géniteur quand même, et puis il a quand même enfoncé des coins assez violents. Donc on va partir avec Ludovic, qui était à l'initiative de cette commission d'enquête, et comment ont procédé les auteurs ?
Alors, créée en janvier donc, de cette année, la demande du groupe Communisme, la commission d'enquête sénatoriale a été emmenée par un sénateur communiste, donc Fabien Gay, mais également par un sénateur LR, Olivier Reitman, dit.
Ils sont toujours
peut-être, voilà, donne. Peut-être que. Alors c'est l'exception qui confirme la règle, hein, ce sénateur, on a vu, puisque le reste est quand même plutôt ultralibéral. Donc voilà, ils ont rendu leur rapport le 8 juillet. Et ils ont, pendant entre février et juin 2025, ils ont interrogé 33 chefs de grandes entreprises, avec tous les fleurons de l'économie française, voilà, Total, Sanofi, etc. Et donc ces grands patrons ont été passés au grill des différents services des ministères concernés. Et en termes de méthodologie, ils ont utilisé les moyens humains qui ont été mis à disposition par le Sénat. Et notamment, ils ont eu recours à deux data scientists qui ont scanné 2252 dispositifs d'aide aux entreprises existants. Donc avec un travail très, très sérieux.
Comment tu les appelles, les data ?
Oui, les data scientists, c'est des gens qui récupèrent les données.
En fait. D'accord, ok.
Donc l'idée, c'était de dissiper le flou général qui entoure les aides publiques distribuées aux entreprises dans une période où les plans de licenciement s'accumulent et où les dividendes distribués par le CAC 40 battent des records. L'idée globalement, c'était d'établir le coût des aides publiques octroyées aux grandes entreprises. Alors, grande entreprise, c'est plus de 1000 salariés. Il s'agissait de déterminer également si ces aides sont correctement suivies, contrôlées et évaluées, et également de réfléchir aux contreparties qui pourraient être imposées en termes de protection de l'emploi lorsque des aides publiques sont versées à de grandes entreprises qui procèdent simultanément à des fermetures de sites et prononcent des licenciements, voire délocalisent leurs activités. Oui. Ils ont indiqué qu'il y avait clairement un manque de transparence. Hein. La commission a constaté le déficit de nomenclature robuste, je cite, et de données chiffrées sur le sujet. Le rapporteur donc soulignant avec, je cite encore une fois, consternation que le ministère de l'économie et des finances, donc Bercy, malgré des questions écrites, précises et réitérées, n'a jamais été ou n'a jamais voulu donner de réponses techniques, enfin en tout cas de répondre à une question tout aussi simple que celle d'estimer le montant des aides publiques.
Ils auraient des ordres.
Et ce qui est quand même assez d'ailleurs étrange, c'est qu'il faut une commission sénatoriale pour établir donc l'estimation. Donc malgré donc ce manque de transparence, malgré la difficulté que Bercy a pu, malgré les bâtons, le fait que Bercy a mis des bâtons dans les roues de nos deux sénateurs, ils ont à la fin des fins estimé toutes ces aides publiques, donc le total de ces aides publiques, je reviendrai après sur le détail, ils ont estimé ça à 211 milliards d'euros. Voilà, pour l'année 2023, donc, qui correspond à des chiffrages qui avaient déjà été établis, notamment par le Clercé,
absolument,
on n'a pas époqué, mais aussi d'autres chiffres qui ont été donnés par France Stratégie. Alors après, il y a bien sûr des critères qui ne sont pas les mêmes selon les estimations, mais globalement, on a 211 milliards à laquelle il faudrait sans doute ajouter des versements d'aide par les régions et par l'Europe. Voilà. Donc, oui, oui. Globalement,
quatre... ajouter un mot quand même qui est vraiment très intéressant. Ah bon. C'est pour ça que je voulais t'insister sur le data scientist là, parce que ce que tu fais allusion par le Clercé, c'est une étude qui a été faite d'un point de vue macroéconomique. Mmh. Hein, donc, c'est sur les données dont peuvent disposer les chercheurs sur la comptabilité nationale, par exemple. Et donc, le chiffre atteint qu'ils avaient trouvé, c'était 200 milliards, donc très proche, effectivement. Au et départ, 211. C'était quand on a invité ici Laurent, c'était encore 158. Hein. Mm. Bon, mais là maintenant, ça a augmenté, c'est parce que c'était 2019. Et donc, les 200 milliards sont très très proches des 211 milliards. Ce qui est intéressant, c'est de rapprocher la microéconomie et la macroéconomie, en l'occurrence. Excuse-moi.
Alors, quand on regarde la ventilation de ces aides publiques, alors les sénateurs ont établi à peu près, ont catégorisé à peu près quatre types d'aides publiques. D'une part, les subventions directes de l'État, donc ça, on s'en doute, hein, donc c'est des subventions qui sont données. Alors, des fois, certaines subventions peuvent être remboursables, mais bien souvent, c'est non remboursable. Il y a également les aides fiscales, donc tout ce qui est réduction d'impôts, taux réduit de TVA, etc. Il peut y avoir les aides financières sur les prêts, les participations, mais ça, c'est une part plutôt minime. Mais le gros de l'aide, en fait, ça, c'est pas suffisamment assez dit, c'est les exonérations de cotisations sociales et patronales. C'est 75 milliards, donc c'est bien plus que les subventions directes de l'État, c'est 44 milliards, et les aides financières, c'est 17 milliards. Donc, les sénateurs ont précisé que ces exonérations sont passées de 20 à 80 milliards en l'espace de quelques années. Elles ont été multipliées par 4 depuis 2017, depuis l'arrivée de Macron au pouvoir. Ces exonérations existaient hein, depuis 1991. Hein. D'ailleurs, en lisant le rapport, c'est Juppé qui a commencé à faire ces exonérations de charges fiscales, au départ plutôt ciblées sur des choses très voilà sur le SMIC, et puis après ça a été étendu et là maintenant ça atteint des sommes extravagantes. Voilà. Donc ce que commande ce rapport, c'est qu'une grande partie des aides publiques aux grandes entreprises ne prend pas la forme de subventions directes, mais passe par des avantages fiscaux, comme les allègements d'impôts ou les exonérations de cotisations sociales. Et ces dispositifs ne donnent pas lieu à des versements, ce sont des recettes que l'État ou la Sécurité sociale choisissent de ne pas percevoir. Résultat, ils n'apparaissent pas comme des dépenses dans les documents budgétaires et échappent en grande partie au débat public, alors même qu'ils représentent une forme de dépense à part entière. Voilà, donc 211 milliards par an, c'est un des plus gros postes de dépenses de l'État.
Oui, enfin,
ça, il faut le rappeler, je pense que c'est un élément en tout cas qui est très intéressant. Les aides aux entreprises ont été multipliées par 3, et vous n'avez aucun poste de dépenses, à ma connaissance, qui a été multiplié par 3. Voilà. Donc les aides sont passées de 2% du PIB à 7% du PIB. Si on prend les dépenses relatives aux services publics, elles sont restées stables à 18%. Donc c'est vraiment le plus gros poste de dépenses de l'État. Il n'y a pas de comparaison avec d'autres. Donc c'est quand même.
Même quand Emmanuel Macron demande une augmentation du budget de la défense à 2 milliards, on est quand même à 100 fois moins là par rapport au.
Et alors ces aides sont d'autant plus choquantes, comme vous le savez, que les plans sociaux et les versements de dividendes généreux se sont multipliés ces dernières années. Selon les chiffres communiqués par la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, les plans sociaux ont été multipliés par 2 entre 2022 et 2024. De même que les plans de départ volontaire, qui n'ont du reste de volontaire que le nom, et qui peuvent être mis en place indépendamment d'un PSE, et qui connaissent là aussi un fort regain depuis quelques années. Et bien sûr, à ça, il faut rajouter les défaillances d'entreprise. 64 000 en 2024. Donc en même temps, donc au même moment où effectivement les grandes entreprises licencient leur effectif, ces entreprises ont perçu des aides publiques et ont versé simultanément des dividendes dont le taux est tout à fait, curieusement, est tout à fait proportionnel aux aides publiques qu'ils ont reçues. Je prends quatre exemples. Le groupe Auchan. Le groupe Auchan a annoncé en 2024 son intention de procéder à un PSE donc, concernant 2384 de ses 54 000 salariés. Donc, c'est quand même une part énorme. Or, le groupe a bénéficié entre 2013 et 2023 de 636 millions d'euros d'aides fiscales et 1,3 milliard d'euros d'allègements de cotisations fiscales, de cotisations sociales. Pardon. On a le groupe Michelin qui a annoncé la mise en place d'un PSE concernant 1254 salariés parmi les 19 000 salariés du groupe en France. alors que là aussi, le groupe a bénéficié d'aides publiques, notamment 32,4 millions d'exonérations de cotisations sociales en 2023 et 40,4 millions d'euros de crédit d'impôt recherche en 2024, tout en versant, selon les calculs du rapporteur, environ 1,4 milliard d'euros de dividendes la même année. Le groupe ArcelorMittal a annoncé son intention de mettre en place un PSE qui devrait concerner près de 600 salariés parmi les 15 400 employés en France, alors que le groupe, là aussi, a versé en moyenne 200 millions d'euros de dividendes chaque année depuis 10 ans, et alors même qu'il a bénéficié en 2023 en France de 298 millions d'euros d'aide, dont 195 millions d'euros en raison du prix de l'énergie, 41 millions d'euros d'allègement de cotisations sociales et 40 millions d'euros de CICE.
Alors, tout petit mot sur ArcelorMittal.
Dis-moi, oui.
Oui, parce que c'est vraiment la... On va peut-être essayer de recevoir Thomas Dallery, qui a fait une proposition de nationalisation d'ArcelorMittal. Thomas Dallery est déjà intervenu déjà deux fois à notre émission.
Thomas Dallery qui était présent d'ailleurs au rassemblement, il y a eu un rassemblement je crois il y a trois semaines, j'y étais, organisé par la CGT sur le rond-point qui fait face à l'entreprise pour dénoncer voilà, cette purge.
Et c'est vrai que tu parles pour raccrocher, ces aides aux entreprises qui sont faites sans condition, en fait. C'est-à-dire que ce soit aussi bien au niveau des normes environnementales que des normes sociales, que au niveau des emplois qui sont ou bien créés ou à minima préservés. Là, je dis bien qu'ils font des...
Ou même les dividendes. Enfin, oui. S'ils ont des dividendes à verser, c'est qu'ils n'ont pas forcément besoin d'aide. Hein.
C'est ça. Et puis par ailleurs, le montant des dividendes correspond peu ou prou. certains grands patrons disent qu'évidemment il n'y a pas de rapport, mais bon, la similitude des estimations, des chiffres, en tout cas, interroge. En tout cas, voilà. Donc du coup, face à ça, alors je vous rappelle quand même que pour revenir sur le crédit d'impôt recherche, il avait été mis en place par Hollande, je crois, avec l'idée de créer des emplois. Donc c'est quand même assez cocasse de voir que ce crédit d'impôt recherche, finalement, n'a pas créé... Alors, il me semble qu'à l'époque, il y avait un certain Gattaz qui voulait créer 1 million d'emplois, vous vous rappelez ? Il avait Pins, voilà, l'action PME Pins. Or, si on en croit les travaux de France Stratégie, non pas le rapport des sénateurs, mais France Stratégie, son effet total au crédit impôt recherche reste estimé à 100 000 emplois environ. Donc, on voit quand même que on est loin des 1 million.
Voilà, bon. C'est très peu contrôlé. Et du coup, souvent, c'est donné à des entreprises qui ne font pas vraiment de la recherche. Au lieu que ça soit versé à l'université, qui font vraiment de la recherche.
Voilà.
Et France Stratégie, c'est le cabinet du Premier ministre, je rappelle, quand même.
Alors, du coup, là, je termine. La commission sénatoriale donc, propose plusieurs recommandations. Elle propose d'abord un choc de transparence. Donc sur les données relatives aux aides, le rapport préconise d'abord un choc de transparence, donc demandons donc à l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, donc l'INSEE, de créer d'ici à 2027 un tableau actualisé chaque année des aides publiques aux entreprises en fonction de leur taille. Et donc l'idée, ça serait de dire qu'à côté du chiffre d'affaires, du bénéfice net, du montant des dividendes, de la masse salariale, pourrait figurer le montant total des aides perçues et l'impôt payé, ainsi que les diverses taxes acquittées sous réserve de l'accord de l'entreprise. Alors évidemment, ça pose des questions sur le secret fiscal, parce qu'effectivement, tout ça...
Ça devrait intéresser les syndicalistes, en l'occurrence.
Elle propose également un choc de rationalisation, donc des aides à tous les niveaux. Donc, l'idée, ça serait que on est que chaque création d'une aide devrait être précédée d'une étude d'impact. Donc son élaboration devrait subir un test PME pour vérifier que les petites et les moyennes entreprises aient la capacité d'y répondre. Par ailleurs, les auditions ont mis à jour les pratiques de cabinets de conseil dites chasseurs de primes, qui prélèvent jusqu'à 30% du montant du crédit d'impôt de recherche qu'ils aident ces PME à obtenir. Donc voilà, donc il y a aussi des cabinets qui en fait qui en quelque sorte se verse de l'argent sur un crédit qui, a priori, ne leur est pas destiné. Donc, des rémunérations que les sénateurs recommandent de plafonner. Il faut créer un guichet unique, donner de la visibilité et conditionner les aides dès la création de celle-ci, etc., etc. Donc un choc de responsabilisation, ça, effectivement, je ne l'ai pas mis en avant. C'est le troisième choc qui est mis en avant par le sénateur. Donc l'idée, c'est de recréer le... Si on veut recréer le lien et la confiance des citoyens vis-à-vis de la fiscalité. Les sénateurs proposent d'interdire les aides et imposer le remboursement de celles-ci aux entreprises condamnées de manière définitive pour une infraction grave, fraude fiscale ou travail dissimulé. Une entreprise qui délocalise devrait également, pour ces sénateurs, rembourser les aides perçues durant les deux années précédentes. Et afin que l'argent public ne puisse pas revenir aux actionnaires, les sénateurs proposent que le montant des aides publiques devrait être déduit des bénéfices distribuables aux dividendes. Par ailleurs, et j'en termine, un choc d'évaluation, l'idée c'est effectivement tout simplement de créer ce qu'ils appellent un haut commissariat à la stratégie et au plan, qui permettrait en fait de faire un suivi et une évaluation de toutes ces aides avec la collaboration de Bercy, qui pourrait assurer le pilotage, à supposer que Bercy puisse... et soit désireuse, en tout cas, d'assurer ce pilotage, de ce suivi de ces aides. Bercy, qui, a priori, de toute évidence, n'est, en tout cas pour l'instant, semble-t-il, pas désireux d'assurer ce suivi, comme l'a montré ces deux sénateurs, et comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, voilà un peu ce que l'on pouvait dire sur cette commission... qui est intervenue au bon moment, puisque Bayrou, quelques jours après, a annoncé le plan que vous savez, le plan drastique qui fait reposer le principal effort budgétaire sur le travail et non pas sur le capital, alors même que ce rapport montre qu'il y a une gabegie incroyable. Et de toute évidence, Bayrou ne l'a pas lu, puisqu'il a laissé entendre que peut-être qu'il pourrait revoir à minima ses aides, moyennant une simplification, encore une fois, une déréglementation pour aider ces entreprises. Voilà.
Ouais, c'est vrai qu'on préfère taper sur les fonctionnaires, les malades en affection longue durée, entre autres, sur la Sécu, et aussi faire travailler les gens sur deux jours fériés, dont celui qui célèbre la victoire sur le nazisme et les fascismes en Europe.
Bon. Oui, en effet.
Alors, on est un peu mieux renseigné maintenant sur les ressources que l'État donne aux plus riches, un véritable pognon de dingue. On voit que les retombées positives ne sont pas spécialement là. Peut-être si on peut faire un retour sur les travaux d'attaque et CADTM, Christian ?
Eh bien, écoute, on va faire. La question qui est posée, c'est est-ce que les aides aux entreprises et aux ménages les plus fortunés ont quelque chose à voir avec la dette publique ? Rien du tout, selon effectivement tous les premiers ministres de Macron, à commencer par le premier, Édouard Philippe, qui était vraiment un obsédé de la dette. La raison, c'est la dépense publique, c'est ça qui augmente le plus. Alors j'ai fait un tableau que je montre à l'écran. j'ai fait un tableau et curieusement, je tombe sur les mêmes chiffres que les copains d'attaque qui ont travaillé sur... les problématiques de la dette. Eh bien, effectivement, la dette, les dépenses de l'État existent, elles sont importantes. Elles représentent 57% du produit intérieur brut, ce qui n'est pas négligeable. Une hausse, mise à part, j'ai regardé de 2017, j'ai regardé la période Macron, en fait, de 2017 à 2024, hormis, bien sûr, 2020, le Covid et le podium de dingue, mais ce n'est pas celui dont tu parlais, Morgane, à l'instant. Ça tourne autour de 57%. Je lis le chiffre de 2017, 57,7%. 2024, 57,4%. Et donc, c'est négligeable. Donc, c'est stable sur toute la période, quasiment. En revanche, tiens, curieusement, les recettes de l'État diminuent. Curieux. Et particulièrement, donc, elles passent de 54,3% à 51,4% sur la même période. Mais les prélèvements obligatoires aussi. Les recettes de l'État, les prélèvements obligatoires en font largement partie. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que sont données comme méthode les copains d'attaque du CADTM Le CADTM, c'est le collectif pour l'annulation des dettes du tiers-monde, qui a beaucoup travaillé sur la Grèce à l'époque et dénoncé les dettes qui étaient illégales et illégitimes. Donc, ils sont toujours intéressés sur cette question-là et ils ont travaillé avec l'Observatoire des inégalités. Donc, ils ont commencé à recenser les aides les plus significatives et à étudier comment elles impactent la dette publique sur la durée des six années de Macron 2018 à 2023. On ne peut pas considérer que 2017 soit complètement l'ère Macron, puisqu'il a été président nommé en milieu d'année, comme d'habitude en France. Donc, la fiscalité, alors évidemment, la fiscalité du capital en tête, évidemment, hein, avec le passage de l'impôt solidarité sur la fortune à l'impôt sur la fortune immobilière. C'est-à-dire que, revenez sur ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne s'occupe pas des revenus du capital, on évacue les revenus du capital, on ne s'occupe que du patrimoine. Donc, l'ISF travaillait aussi sur les dividendes, et bien plus maintenant avec l'impôt sur la fortune immobilière de Macron. Donc, dans ce cas, pour revenir sur la méthode des copains d'attaque et du CADTM, il s'est agi de montrer combien en 6 ans l'IFI de Macron a rapporté, c'est pas difficile, hein, ça se trouve dans le finance chaque année, et de faire chaque année une estimation qu'aurait rapporté l'ISF pendant la même période. Ça va ? C'est compréhensible ? Bon. Bon, la différence étant, la différence entre les deux étant le manque à gagner par rapport aux finances publiques. Et le manque à gagner sur 6 ans, c'est sans appel, c'est 24 milliards. Mais parlons encore une fois de la somme qui était demandée. Alors, j'ai pris deux exemples, donc l'histoire de l'ISF et l'histoire de l'impôt sur la fortune immobilière. Il y en a beaucoup plus que ça. Hein. Le petit livret que je conseille aux auditeurs et auditrices d'aller feuilleter, c'est sur le site d'Attac, évidemment, et ça s'appelle « La dette de l'injustice fiscale ». C'est 28 pages très complètes, pas forcément faciles à lire, mais qui sont très intéressantes. Sur les pas faciles à lire, il y a les impôts de production. Comment les impôts de production impactent donc la dette publique. Donc, les impôts de production le plus connu, c'est celui qui a fait beaucoup d'encre en 2024, c'est la fameuse contribution à la valeur ajoutée des entreprises. Mais il y a aussi la réduction des impôts, de la moitié des impôts fonciers, la baisse du taux de prélèvement de la contribution économique territoriale. Tout ça, c'est estimé à 22,3 milliards, toujours sur la période... sur la période 2021-2022. Mais il faut être juste dans l'école, et c'est l'excellent travail qu'ont fait les copains d'Attac et du CADTM, encore une fois. On ne peut pas remettre ce chiffre de 22,3 milliards directement dans la dette publique. Parce que, en réduisant, on comprend, je pense assez facilement, qu'en réduisant la part de ces impôts de production, on augmente la part du bénéfice. Et donc, si on augmente la part du bénéfice, l'impôt sur le bénéfice augmente, et donc il y a quelque chose de positif dans cet impôt de production. Le fait d'avoir baissé les impôts de production a permis un retour d'impôt, c'est-à-dire d'augmenter la part de bénéfice pour l'entreprise en question. Bref. Total sur 3 ans, puisque là, effectivement, l'impôt de production n'existe depuis 2021, c'est une économie qu'on aurait fait de 33,45 milliards. Je vais m'arrêter là sur ce coup-là, mais pour vous donner quand même les derniers chiffres. La méthode a encore passé au crible les impôts sur les sociétés qui auraient coûté 43,94 milliards. De manque à gagner sur la taxe d'habitation, là c'est le bouquet, 122 milliards de manque à gagner, et la contribution sur l'audiovisuel public, etc. Et il faut même ajouter ce qu'a fait tout à l'heure Ludovic, il faudra ajouter les exonérations ou les avantages du quinquennat précédent de François Hollande. Au total, Voilà ce que nous disent les copains. Le coût de prélèvement net, y compris d'impôts, y compris des retours d'impôts, donc j'ai rapidement expliqué, c'est 308 milliards sur la période 2018-2023, soit une hausse de 35% de la dette. Et si on en serait donc, aujourd'hui, on n'en serait pas à 110% ou 111% de dette publique du PIB, mais 99% si on avait été un peu plus modeste dans les exonérations et dans les avantages fiscaux.
Merci That's Christian. On conclut maintenant.
Oui.
Et donc, bah, merci de vos attentions, parce que c'était un peu peut-être un peu dur à suivre des fois, mais voilà.
On fait les actus.
On la pose d'abord.
La pose d'abord.
Prends ce que tu veux pendant qu'il y en a, ça commence à sentir la faim. Tu voudrais bien pas rester là, mais tu vas pas aller très loin. Tu voudrais choisir une étoile à l'écart de tes vomissures pour aller tisser ta toile, mais le voyage est pas très sûr. Juste un coup d'œil à la planète, pauvre nasse de riche avant que ça pète. Comme un gros tuyau pour balancer tes cochonneries, les foutre sur les Esquimaux, Zanzibar et l'Indonésie. Tu voudrais bien mais tu peux pas, tu voudrais mais tu sais pas où. Tu peux plus planquer ton caca, tellement t'en as foutu partout. Juste un coup d'œil à la planète, le petit coup d'œil du poète. Just have a look à la planète, t'as rempli à bord la tinette. D'accord, c'est pas joli joli, la puanteur de tes faiblesses. On dirait les États-Unis, mais c'est très bien fait pour tes fesses. Comme c'est toi qui as chié dans ton lit, c'est toi qui vas dormir dedans. Dans ta merde et dans ton vomi, avec ta femme et tes enfants. Juste un coup d'œil à la planète, un petit coup d'œil du poète. Just have a look à la planète, pauvre nasse de riche avant que ça pète. T'as plus un endroit où aller, tu fuis ton image comme la peste. C'est pas la peine d'en rajouter, la planète entière te déteste. Juste un coup d'œil à la planète, enculé de riche avant que ça pète. Just have a look à la planète, le petit coup d'œil du poète.
C'était Sarcloré, Pauvenas de Riche. Morgane.
Alors, on va commencer à parler de la loi Duplomb, donc, qui a été acceptée par nos deux chambres parlementaires avec moult fourberies, en fait. Loi Duplomb, donc, qui ne va pas améliorer le sort de nos agriculteurs, qui notamment autorise la réintroduction de certains pesticides comme les néonicotinoïdes qui massacrent nos abeilles, en fait. Mais on voit également, depuis quelques jours, le succès retentissant d'une pétition sur la plateforme de l'Assemblée nationale pour demander son abrogation. Alors, elle avait... Là, ce matin, j'avais vérifié vers 10h30, elle avait déjà dépassé les 360 000 signatures. Là, actuellement, elle est déjà à près de 414 000 signatures. Donc, prochain objectif qui, à mon avis, sera atteint, mais bon, faut quand même y aller, c'est 500 000 signatures. Alors, quelle est l'utilité des pétitions sur la plateforme de l'Assemblée nationale? En fait, d'après le site lui-même, elles sont mises en ligne sur le site de l'Assemblée nationale dès qu'elles dépassent plus de 100 000 pétitionnaires. Donc pour plus de visibilité, et surtout, dès que la pétition est signée par plus de 500 000 personnes, elle peut faire l'objet d'un débat en séance publique à l'Assemblée nationale. Donc, tout l'intérêt de soutenir ce genre de démarche, en fait.
Alors, chers amis auditrices et auditeurs, allez-y, signez, allez sur le site de l'Assemblée nationale. Je me demande si des paroles sont relayées par Attaque, d'ailleurs.
C'est possible. C'est probablement. Ouais.
Donc, sur les actus d'Attaque, merci pour cette première... On ne pensait pas qu'il serait allé jusque-là, quand même. Moi, je suis toujours scié. Oui, alors, le budget 2026, les réactions d'Attaque, bon, je voulais faire bref, hein. Bon, c'est un scandale, quoi. C'est refus total d'une réforme fiscale véritable, hors de question d'imposer les riches. Enfin, bon, je n'insiste pas. Un vrai budget, un autre budget est vital pour notre société et pour le réchauffement climatique, contre le réchauffement climatique, évidemment. Sur le site d'Attaque, il y a aussi les morts au travail par forte chaleur, et pas seulement d'ailleurs. Et c'est l'Alliance écologique et sociale qui se lance là-dedans. 5 morts de jeunes qui sont en stage BEPC, enfin des trucs à la con, qui ne font plaisir qu'à qui je me le demande d'ailleurs. Des jeunes, et dont il me semble qu'un mort est jeune, il a été enseveli sous du goudron brûlant. Voilà. Donc je rappelle en l'occurrence que Attaque Lille fait partie de l'Association pour la mémoire des morts du travail et que nous avons déposé une gerbe devant le CPAM cette année, le 1er mai, bien sûr, et on recommencera chez tous les ans. On avait un sénateur et un député LFI présent. Qui veut gagner des milliards, en finir avec les niches fiscales, c'est toujours sur Attaque, je vous renvoie là-dessus. Le rappel dans l'actualité d'Attaque, c'est l'université d'été des mouvements sociaux et de la solidarité. C'est du 23 au 26 août de cette année, évidemment. Ça passera à Bordeaux. 200 thèmes à discuter, j'en ai retenu quelques-uns. Le service public est gratuité, puisque j'y serai. Gratuité des transports en Europe et en France. Les mouvements sociaux en Europe face à l'accélération de la déréglementation, comment riposter? Voilà une question importante. Quand la terre devient un actif, la lutte contre la financiarisation du vivant. Et puis, évidemment, vous ne pouvez pas le louper, faire entendre sa voix pour les élections municipales de 2026. Quels outils pourrions-nous forger pour être présents et nous faire entendre dans les élections municipales? Et enfin, financiarisation du système de soins et conséquences pour les patients, soignants et sécurité sociale. On va s'arrêter là, Florent ?
Oui, très bien. Bah, on se retrouve fin août. Le 30 août, oui.
Il n'y aura pas d'émission le 16 août.
Oui,
bon, voilà, c'est l'été. Entre un vendredi et un dimanche, ça ne fait pas.
Bah, merci et bon week-end, bon été à vous.
Bel été, bonnes vacances si vous partez et même si vous ne partez pas. Prenez soin de vous.